Voilà. Eh bien, nous avons beaucoup de sujets de joie de se retrouver ensemble et surtout pour partager la parole de Dieu et se souvenir que Dieu nous a laissé sa parole et que ce qui est écrit dans cette parole, eh bien, est pour notre enseignement, pour notre édification, pour notre force, pour que nous puissions être édifiés. Et ce matin, j'ai pensé à un passage biblique dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre. Et c'est au chapitre 1, et nous allons lire quelques versets. Alors, chapitre 1, à partir du verset 13, 1 Pierre, chapitre 1. « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra, comme des enfants obéissants. » Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme un père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme de l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été rachetés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » C'est dans cette épître, première épître de Pierre, on trouve trois fois le mot « sobre ». Et c'est justement sur ce mot que j'aimerais bien que l'on s'arrête ce matin. Le mot « sobre ». Alors d'abord, il faut le définir. « Sobre » ne veut pas dire « abstinence ». C'est pour beaucoup de gens, quand on dit « je suis sobre », ça veut dire que je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas de vin. Voilà. Donc la parole de Dieu ne nous dit pas que l'on doit être abstinent. Elle dit que nous devons être sobres. La sobriété, c'est user de modération dans l'usage des choses. Et il ne s'agit pas seulement d'alcool. Il s'agit aussi de beaucoup d'autres choses. Quand Pierre nous parle de sobre, il ne dit pas par rapport à l'alcool. Il dit « soyez sobre ». Voilà, point final. Bon, ce n'est pas un point final parce qu'il continue à dire certaines choses, mais ça veut dire « sobre » en toutes choses. Alors, bien sûr, nous avons beaucoup d'habitudes, beaucoup de choses que l'on use et abuse, hein. Mais ici, il s'agit de la sobriété, c'est-à-dire l'usage modéré de la vie de tous les jours. Paul disait, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, dans notre vie de tous les jours, eh bien, il y a des choix à faire. Si vous voulez réussir une chose, eh bien, il va falloir que vous priviez peut-être de certaines choses. Hein. Je pense à tous ceux qui passent des examens, eh bien, un jour ou l'autre, et ils doivent se dire, bon, ben, ce match de foot, je ne vais pas le regarder, hein, parce que je veux réussir mon examen. Si vous voulez réussir dans votre, je ne sais pas, dans certaines choses, certaines personnes ont l'intention d'acheter une voiture, ou alors ils se disent, bon, ben, on va réduire les dépenses sur certaines autres choses, et on va aller moins au restaurant, on va aller moins faire ceci, moins cela, on n'ira pas en vacances parce que la voiture est finie et donc il faut en acheter une autre. Donc il va y avoir un programme, un projet dans lequel on s'investit et on dit je vais faire certaines choses, donc je ne peux pas faire certaines autres choses. Et c'est là que ce mot sobre se place. Nous sommes chrétiens et nous sommes nés de nouveau. Et nous avons été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ. Et nous avons en vue quelque chose. Dieu a en vue la sainteté. C'est ce que Pierre nous dit ici. C'est Dieu a en vue pour nous la sainteté. Et donc la sainteté est incompatible avec une certaine manière de vivre, avec certaines choses. Si nous voulons marcher dans la sainteté, qui est la volonté de Dieu, hein, parce que vous lisez ce verset, le verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qui est écrit, soyez saints, car je suis saint. Et je sais que ce mot n'est pas un mot qui est très favorable, les gens n'aiment pas beaucoup, et je me rappelle avoir entendu parler négativement sur la sainteté, même j'ai entendu quelqu'un dire non, on parle trop de la sainteté, et pourtant la parole de Dieu nous parle de la sainteté. Et je me rappelle même d'une dame. Elle était une dame, une enfant d'Israël. Elle était en train de lire le Lévitique et elle a été convaincue de péché en lisant « Vous serez saints car je suis saint ». Et elle a compris qu'elle était pécheresse, qu'elle était perdue. Et elle a commencé à chercher comment être sauvée parce qu'elle avait lu cette parole, parce que dans le Lévitique, c'est répété plus d'une fois. Hein, et c'est l'accent est mis justement sur la sainteté de Dieu. Alors j'étais très surpris de trouver quelqu'un qui a été convaincu de péché en lisant le Lévitique. Mais bon, ça se comprend très bien à cause de la sainteté. Un chrétien doit être une personne sainte. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. C'est quand on considère le sacrifice de Jésus-Christ, on voit l'horreur du péché, on voit combien le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, eh bien, a vu notre condition de pécheur et a voulu nous amener jusqu'à lui. Et il a donné son propre Fils pour que nous puissions être sauvés. Et un jour, nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité, dans une sainteté. La sainteté de Jésus-Christ. Il y a tout un comportement, il y a toute une vie, toute une manière de faire, tout ce que nous voyons faire autour de nous qui est absolument incompatible avec une vie chrétienne et avec une destinée éternelle, et une destinée dans la sainteté de Dieu et dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est comme disait quelqu'un, je ne voudrais pas me trouver. Si le Seigneur Jésus-Christ revenait maintenant en train de pratiquer le péché. Et je peux dire, si vous avez l'habitude de vous utiliser un pourcentage important de votre vie à certaines activités, vous pouvez prévoir que quand le Seigneur Jésus-Christ revient, et s'il revient dans votre vie, eh bien, il va vous trouver en train de pratiquer cette activité. Parce que vous vivez. Comment dire, dans cette passion ou dans comment dire, ce hobby ou cette chose qui vous accapare, eh bien, cette chose-là, elle prend votre temps. Alors, tandis que certaines personnes sont plutôt axées sur la prière et à rechercher le Seigneur. Je me rappelle d'avoir lu la biographie de David Livingstone. Vous savez, hein, on parle beaucoup de lui. Et dans le monde, on dit le grand explorateur David Livingstone. Mais David Livingstone n'était pas seulement explorateur, il était médecin. Et ensuite, il était missionnaire. Et il a exploré, mais pour annoncer l'évangile. Et en même temps qu'il explorait, il annonçait aussi l'évangile et il fondait des stations missionnaires. Et il ouvrait le passage pour que les missionnaires suivent et qu'ils puissent annoncer l'évangile. Et David Livingstone, un jour, épuisé complètement, est mort. Et comment dire, les serviteurs africains qui étaient là et qui l'aidaient dans ce qu'il faisait sont entrés dans sa hutte de branchage et ils l'ont trouvé à genoux, devant sa Bible, en train de prier, mort. Il est mort en priant et en lisant sa Bible. On ne sait pas s'il est mort en lisant la Bible ou s'il est mort en priant, mais c'est indifférent. C'est comme ça. Donc, je me dis, voilà une vie qui portait le sceau. Qui voudrait partir d'une manière ou d'une autre en priant ou en lisant sa Bible? Et je pense qu'en tant que chrétien, on peut dire en toute honnêteté, j'aimerais que le Seigneur me rencontre et m'enlève à un moment béni où je suis en train de le louer, de l'adorer, de le chercher, de l'aimer, de lui dire Seigneur, je t'aime plus que tout. Vous savez, il y a ce passage de la Genèse où il est parlé d'Enoch. Et Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voilà, vous avez un homme, il marchait avec Dieu, jour après jour, jour après jour. Et puis un jour, Dieu l'a pris. C'est tout simple. Et puis, c'était l'histoire de cet enfant qui, on lui avait demandé, mais pourquoi Enoch est parti? Il a dit, eh bien, le Seigneur Jésus l'a emmené avec lui parce qu'il marchait avec lui. Et il lui a dit, ben maintenant, tu es un peu trop loin de chez toi, viens chez moi. Voilà, c'est à peu près quelque chose comme ça qu'il a dit, hein. Je ne suis pas certain de toutes les paroles. Mais bon, si le petit garçon, la petite fille étaient là, ils seraient d'accord que j'ai dit les choses comme ils pensent. C'est aussi simple que ça. On marche avec Dieu, on vit pour lui. C'est cela la sobriété. Et la sobriété, eh bien, c'est une sobriété en paroles. C'est combien de choses nous pouvons dire dans une journée et des choses totalement inutiles, des choses qui ne sont pas forcément, qui n'avancent pas le règne de Dieu, qui n'avancent pas la gloire de Dieu. Malheureusement, combien de paroles folles on peut dire. Et je suis coupable, hein, moi-même, hein, je ne veux pas porter un jugement sur quelqu'un d'autre et ne vous sentez pas accusé par ce que je dis. Moi-même, souvent, le Seigneur me dit « tu as trop parlé ». Et à la fin d'une journée, je ne suis pas content de moi. Parce que je me dis, tu as parlé à tort et à travers, tu as dit n'importe quoi. Et il y a eu même des moments hein, dans ma vie où le Seigneur m'a dit, arrête. Et j'étais en train de parler, arrête. Ou je vais vous dire quelque chose, arrête. On ne continue pas parce que c'est inutile, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de profondeur, ça n'a pas de valeur éternelle. Ça ne veut pas dire que on doit être des moines et qu'on a fait vœu de ne plus parler. Parce qu'il y a des moines, je ne sais plus quel ordre, ils ne parlent plus. Je crois que c'est les chartreux. Bref, ça n'est pas le plus important. Mais ce qui est important, c'est de surveiller ses paroles. Surveiller sa vie de tous les jours, surveiller ses pensées, c'est surveiller ce que l'on fait. C'est combien de choses prennent tellement de temps. Je les appelle des chronophages. Ce sont des activités qui mangent le temps. Elles vous détruisent petit à petit. Vous avez une vie qui est unique. On passe un certain nombre d'heures. Et si certains ont calculé le temps que nous passons à manger, le temps que l'on passe à dormir, le temps que l'on passe dans les transports en commun, le temps que l'on passe à ceci et cela. Et si vous faites le calcul ou si vous lisez le calcul qu'a fait une certaine personne, eh bien vous serez vraiment effrayé. Je ne sais plus, je crois qu'on passe 42% de son temps à dormir. 40%, je crois, hein. Je ne veux pas affirmer, mais je pense que c'est une forte proportion de notre temps. Et on passe une forte proportion de temps à bavarder et à dire des choses inutiles. Et on passe une forte proportion de notre temps. Après, c'est vrai que nous sommes amis, nous sommes frères et sœurs. Et c'est bon hein, de passer du temps ensemble et de partager un repas ensemble et de se dire qu'on est avec un frère ou avec une sœur et que l'on prend plaisir avec être avec ces personnes. Je peux vous dire, c'est une joie et que l'on doit répéter et renouveler. Mais il m'est arrivé souvent de regretter que l'on s'est rencontré entre frères et sœurs. On a passé un bon moment ensemble sans prier. Nous n'avons pas prié, malheureusement. Combien de fois? Et même j'ai été dans des réunions, dans des cultes, où on a oublié la prière. On a oublié même de remettre le culte entre les mains de Dieu et de dire « Seigneur, nous te remettons ce culte pour que tu le bénisses. Il est sous ton regard. » Et puis, au dernier moment, on dit « Oui, mais on n'a pas prié. » Oui, on aurait dû commencer par là. Hein. C'est ou des réunions où on prend des décisions entre responsables, hein, vous voyez ce qu'on veut dire, hein. Des pastorales. Hein, on est 20-30 pasteurs. Il m'est arrivé, maintenant je ne suis plus vraiment dans les pastorales. Mais on était 30 pasteurs, et puis on a discuté, et puis on s'est tapé sur l'épaule, et puis c'était la première pastorale à laquelle j'ai assisté. Et il y avait un pasteur qui montrait une Bible à l'autre. Il lui disait, tu sais, hein, regarde cette Bible. Elle est à... Il y avait une fermeture qui la permettait de la fermer vraiment comme il faut. Et ça, c'est vraiment. Et puis il y en a un autre qui parlait. Et moi, je lui ai dit, au nom de Jésus, je te chasse. Et puis je me suis rappelé Astérix à la forêt Carnute. Il y avait les druides qui étaient tous réunis, et il y en a un qui montrait sa serpe à cran d'arrêt. Et moi, j'ai vu le pasteur avec sa Bible, avec la fermeture éclair, j'étais surpris. Je me suis dit, mais c'est. L'un montre sa serpe à cran d'arrêt, et l'autre montre sa Bible avec une fermeture éclair. Et puis, il y a un druide qui disait, je l'ai changé en menhir. Je l'ai vu aussi, le pasteur qui dit, au nom de Jésus, je l'ai chassé. Je me suis dit, mais on peut se retrouver, c'est presque une caricature de quelque chose que bien connu. Est-ce que l'on est dans le monde ou est-ce que nous sommes parmi des chrétiens? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? De montrer que notre Bible est à cran d'arrêt, à fermeture éclair, et que nous pouvons la dégainer, que nous pouvons la lire très facilement. On lit la parole de Dieu, on partage des versets bibliques, on s'encourage les uns les autres par la parole, mais on ne montre pas la parole qu'elle est reliée en cuir ou qu'elle est d'une ceci ou cela. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? C'est dans une réunion de pasteurs. Je me dis, il y a quelque chose d'autre à faire. Il y a un monde perdu. Il y a un évangile à annoncer. Il y a des âmes qui souffrent. Il y a des chrétiens qui sont mis à mort pour leur foi. Vous savez que au 19e siècle, un pasteur ne riait pas. Des pasteurs ont vécu 40 ans de ministère sans jamais rire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disaient, un monde est perdu. Je ne peux pas rire parce qu'il y a des gens qui vont en enfer. Je ne peux pas parler à tort et à travers. Il y avait un pasteur qui avait reçu une personne. Au bout d'un certain temps, la conversation commençait à se passer à des choses inintéressantes pour lui. Il a dit, mon frère, tu as fini de me dire ce que tu avais à me dire. L'autre lui a dit oui. Alors prions et séparons-nous. Le monde est perdu. Il faut gagner du temps pour Jésus-Christ. Et c'était des personnes qui avaient tellement la vision de l'âme perdue, d'un monde qui allait en enfer, où il fallait passer du temps à prier, à intercéder, que une minute perdue était pour eux une minute perdue pour l'éternité. Je me rappelle cette phrase de Georges Müller. Il dit, c'était rédigé un peu comme une annonce d'objet perdu. Hein. Perdu 2 heures en or, enrichi de 60 minutes en diamant. Il avait mis comme une annonce d'objet perdu. Combien de temps on peut perdre? C'est alors qu'il y a tant de choses à faire, tant de personnes pour lesquelles il faut intercéder. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent réellement. Et nous sommes en train de nous réjouir et faire comme si de rien n'était. Mais il y a des gens qui sont dans la peine. Et il faut prier pour eux. Et il faut intercéder pour eux. Quand nous sommes dans la légèreté, eh bien, on a du mal à entendre, ah oui, mais il y a un frère qui est dans la difficulté. Il y a une personne, nous ne sommes pas prêts à entendre. Parce que nous sommes dans la légèreté, dans l'exubérance. C'est pour cela qu'il est dit, soyez sobres, soyez sobres. Faites attention. Dieu nous appelle à la sainteté, à la sainteté. Pas à dilapider notre vie. Et malheureusement, je vous dis toutes ces choses, mais je suis bien conscient que moi-même, je dilapide ma vie en des choses où parfois je me dis, mais si les frères et sœurs me voyaient, peut-être qu'ils ne seraient pas contents que je passe ma vie à des choses pareilles. Hein. C'est comme cela. Mais on lit ici, soyez sobres, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est en vue de la sainteté et en vue de l'avenir. Mais il y a un deuxième sobre aussi. C'est donc un sobre aussi. La fin de toute chose, c'est au chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et puis, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a une guerre. Votre âme est en guerre. Ou plutôt, il y a un principe qui s'oppose à vous et qui est en guerre contre vous. C'est la guerre à votre âme. Soyez donc sages et sobres, parce qu'il y a une guerre contre votre âme. C'est la fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Comment peut-on parler légèrement? Voilà, on a discuté de tort et à travers, et on a dit fait des multitudes de choses, et on a bien mangé, et on n'a pas été sobre. Et puis, est-ce qu'on peut prier après? Est-ce que l'on peut vraiment avoir un esprit d'intercession et avoir porté un fardeau de prière pour un frère, pour une sœur, après avoir été tellement léger, tellement superficiel? Et moi, je me pose la question. Je me dis parfois, eh bien, on ne peut pas terminer par un moment de prière, parce que il y a eu trop d'exubérance, trop de légèreté. Alors, je ne veux pas passer pour un piétiste, hein. Il y a des gens qui ont pratiqué le piétisme, et le piétisme est une erreur. Mais la piété, non. Le piétisme, c'est l'excès. On pourrait dire, c'est la caricature. Tandis que la piété, eh bien, c'est quelque chose de précieux. C'est Paul qui le dit, hein, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La piété est quelque chose de très important. Et malheureusement, on ne la pratique pas souvent. Et c'est même pas une pratique, c'est quelque chose, on est pieux. Voilà. Et les choses spirituelles sont précieuses pour nous. Et on est toujours, elles remplissent notre cœur et elles remplissent nos pensées. Et on vit à ce rythme-là, des choses précieuses et des choses spirituelles. Mais beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que la fin des temps est proche. Et que la fin des temps soit proche ou qu'elle soit éloignée, je crois qu'elle est proche. Mais qu'elle soit proche ou qu'elle soit éloignée, eh bien, pour nous, à un moment ou à un autre, qu'elle soit arrivée ou qu'elle ne soit pas arrivée, ce sera la fin des temps pour nous, parce que ce sera la fin de notre vie. Et il y a un moment où la fin de notre vie arrive. Et c'est pour nous le jour de Christ, c'est nous sommes arrivés, c'est nous sommes arrivés au but, c'est terminé. Et ce jour-là, est-ce que nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Je me dis, est-ce que nous sommes prêts à le rencontrer? Après avoir, bon, on a bu quelques petits coups de vin, hein, on est un petit peu gai. Et si on partait maintenant, est-ce que l'on serait prêt à rencontrer Christ avec un cœur joyeux? Voilà, hein, Seigneur, on a bien bu en ton nom, hein. J'ai lu dernièrement quelque chose, et après avoir bu un certain nombre de bouteilles et de verres, eh bien, il rendait grâce à Dieu pour toutes les bontés et toutes les bonnes choses qu'il nous a données sur la terre. C'est des drôles de chrétiens, vous savez. Il y a un auteur qui écrit, hein, de cette manière-là. Mangez bien et buvez bien, et réjouissez de toutes les grâces. Victuailles et qu'ils avaient mangé, les bons vins qu'ils avaient bu. C'est drôle, vous savez, que l'on puisse mélanger toutes ces choses. Mais sont-ils prêts à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Parce que, vous savez, quand on vit de cette manière-là, on termine comme on a commencé. C'est-à-dire que avec une maladie cardiaque, et puis on va faire un infarctus ou une embolie ou chose comme cela, parce que par les excès du manger et du boire. Mais c'est Pierre qui nous dit que les excès du manger et du boire sont une mauvaise chose. Mais les excès de parole aussi, mais les excès de toutes choses sont mauvais, parce qu'ils entraînent notre cœur. On ne pense plus qu'il y a une fin des temps, qu'il y a un jour où il faut rencontrer Christ face à face. Il faut le voir face à face. Et est-ce que nous sommes prêts? C'est soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La prière est une occupation. C'est quand on dit vaquer à la prière, c'est prier comme une occupation. Notre prière est une activité journalière, quotidienne, de tous les instants. On prie, on intercède dans toutes les situations. Nous sommes avec des multitudes de gens. On est dans des situations totalement différentes d'un moment ou à un autre. Et est-ce que nous sommes prêts à prier? Je peux vous dire, vous pouvez prier à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Vous êtes dans le métro, vous pouvez prier. Vous êtes dans la salle d'attente de je ne sais quoi, vous pouvez prier. Vous êtes dans toutes les situations, vous pouvez prier. Il y a un moment où vous êtes à votre travail et vous êtes dans une chose qui vous préoccupe, vous dites Seigneur, aide-moi. Ça ne va pas plus loin que ça. Vous n'avez pas spolié votre patron d'heures et de minutes votre temps de travail. Mais vous avez demandé, Seigneur, viens à mon secours. Donne-moi des forces. Donne-moi de la sagesse dans cette situation. J'ai besoin de toi. Je me confie en toi. Je regarde vers toi. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as donné la force, de ce que tu me donnes de la sagesse. Je te remercie que ce travail, puisse l'accomplir. Vous pouvez vaquer à la prière à chaque instant, parce que c'est vaquer à la prière, c'est une occupation la prière, parce que la fin des temps est proche. C'est soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et puis il y a un troisième sobre, c'est le chapitre 5, le verset 8. C'est soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobres pour être prêts, parce que le diable est là. Et à chaque instant, il rôde comme un lion rugissant, et il cherche l'occasion. Si vous n'êtes pas vigilant, si vous ne veillez pas, et si vous n'êtes pas sobre, ne vous en faites pas que le diable, lui, je ne sais pas s'il est sobre, mais je ne pense pas. Mais il est, en tout cas, il veille. Il cherche l'occasion pour nous séduire, pour nous tromper, pour nous amener dans un mauvais chemin. Et le moment où vous n'êtes plus sur vos gardes, c'est le moment qu'il va choisir pour vous séduire, pour vous tromper, pour vous amener dans un mauvais chemin. C'est pour cela, c'est une troisième raison, on pourrait dire, de la sobriété, de faire attention à ce que nous faisons et comment nous pratiquons notre vie et comment nous agissons quotidiennement dans tout ce que nous faisons, parce que le diable est là et il cherche une occasion. Si vous avez, vous lui offrez, si vous ouvrez une porte, vous pouvez être certain qu'il va rentrer. Et quand on n'est pas sobre, que l'on a des excès d'une chose ou d'une autre, soyez certain que le diable va s'infiltrer et que vous allez être un mauvais témoignage, que vous allez faire quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas correct. Je ne dis pas que c'est un péché forcément, mais c'est quelque chose qui ne vous édifie pas, qui ne vous fait pas grandir. Parce qu'il est là comme un lion qui guette, qui tourne et qui tourne. Si vous avez jamais entendu cette expression, tourner comme un lion en cage. Et la cage du lion, c'est justement cette vigilance qu'il a de nous séduire et de nous tromper. Et il tourne autour de cette cage. Et il tourne, et il tourne. Il peut tourner des journées entières et des mois cherchant l'occasion de vous séduire, de vous tromper, de vous amener dans un mauvais chemin, de vous faire faire un mauvais choix. Et il y a des mauvais choix que l'on a fait pour la vie. On n'a pas fait pour une minute ou pour 2 minutes, mais on a fait de mauvais choix pour la vie. Et c'est malheureusement, on est lié après, on ne peut plus se sortir d'une mauvaise situation. C'est ou d'une mauvaise réputation. Parce que justement, on a manqué de vigilance. On n'a pas fait attention. Parce que l'ennemi, il y a un ennemi. Soyez certains qu'il existe et qu'il est bien là. Je ne veux pas prêcher sur le diable. C'est un personnage qui ne m'intéresse pas. Mais néanmoins, je désire simplement vous mettre en garde que c'est un personnage, un être rusé, trompeur, séducteur, qui vous fait croire qu'une chose est vraie alors qu'elle est fausse, qu'elle est dans votre intérêt alors qu'elle ne l'est pas. Il a tous les moyens de séduction. Si vous n'êtes pas vigilant et si vous ne faites pas attention, vous ouvrez une porte que vous aurez du mal à fermer plus tard. Et combien de personnes se sont entrées dans le piège, sans même en croyant que tout allait bien. Je me rappelle c'est un copain de classe. Donc moi, je ne fumais pas. Donc tous mes copains fumaient. J'avais décidé, moi, que je ne fumerais pas. Donc, quand quelqu'un a voulu me proposer une cigarette, je dis « Désolé, je ne fume pas ». Donc, ils ont insisté, tant qu'ils ont pu. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour me séduire, pour me tromper. Mais j'avais décidé que je ne fumerais pas, donc je ne fumerais pas et je n'ai pas fumé. Voilà. Je leur avais dit « Je ne fume pas ». Et ils ont été méchants, violents et tout ce qu'on vous voulez, mais ils n'ont jamais réussi à me faire fumer. Et un jour, un de ceux qui a insisté le plus est allé me voir. Il m'a dit, tu sais, le jour où j'ai commencé à fumer, où mon père s'est rendu compte, il aurait dû me casser une chaise sur le dos. Il avait ouvert une porte, il n'arrivait plus à la fermer. C'était terminé. Il fumait 2 paquets de cigarettes par jour à 17 ans. Non, 16 ans. Parce que c'était à peu près cette époque-là que je situe à peu près comme ça. Mais c'était un drame dans sa vie. C'était un inconverti, vous pouvez dire. Hein. Mais combien de chrétiens sont pris dans des pièges semblables parce qu'ils n'ont pas été vigilants? C'est toujours la première fois qui est difficile. Les autres fois, on se laisse aller. Et il suffit de tomber une fois. Et après, la deuxième fois est moins difficile. Et la troisième fois encore plus facile, et de plus en plus facile. Et nous sommes dans le piège. Ne croyez pas que c'est à la 10e fois que les choses sont difficiles, hein, que vous avez une marge. Vous n'avez pas de marge. Quand vous êtes tombé, eh bien, ce sera plus facile plus tard. C'est toujours la première fois. Il y a un moment où on dit non, et je refuse cette chose-là. Elle ne entrera pas dans ma vie, parce que je suis chrétien, parce que j'appartiens à Christ. Parce que j'ai l'espérance de la gloire de Dieu, parce que Dieu m'appelle à la sainteté, parce que Dieu, le sang de Jésus-Christ a coulé pour mes péchés. Ce péché que vous me demandez de pratiquer, le sang de Jésus-Christ a coulé, le Fils de Dieu est mort pour moi. À cause de cela, je ne le ferai pas, parce que le sang de Jésus-Christ a coulé pour moi. Il faudrait que je demande pardon pour ce péché-là. Je ne veux pas tomber dans ce piège. Parce qu'un jour Jésus-Christ va revenir, parce que je vais le voir face à face. Le jour de Christ est proche. Peut-être c'est aujourd'hui, si c'est demain ou après-demain, mais ça peut être maintenant. Alors je ne veux pas être trouvé dans une situation où Dieu a des reproches à me faire, où j'ai à rougir de honte, où j'arrive comme un voleur devant la police et pris la main dans le sac, comme on dit. Je ne veux pas être dans cette honte, d'être arrivé dans la présence de Dieu, eh bien, en ayant un péché dans la main et en étant en train de faire quelque chose que Dieu désapprouve. Vous voyez, on est sobre, on est sage, on veille, on sait ça nos reins, les reins de notre entendement, on fait attention. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas quelque chose où on dit « mais ça c'est interdit, ça je ne le fais pas ». Paul dit « tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il y a des choses, on les met de côté. Pourquoi ? Parce que quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Quand je suis devenu un adulte, j'ai dit non, ces choses-là, je les mets de côté. Ce n'est pas pour moi. Peut-être c'est pour le monde. » Peut-être que le monde a trouvé très intéressant de faire ceci ou cela, mais ce n'est pas pour moi. Je me rappelle, je termine là-dessus, c'était Ruben Toré, il était dans une réunion et il venait de terminer la réunion et il y a une dame qui s'est approchée de lui. Il lui a dit, Monsieur Toré, je ne serai jamais chrétienne. Alors, il ne la connaissait pas et il lui a dit, Madame, j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors, il a dit, mais parce que tout est interdit. Ah, il a dit, non, tout n'est pas interdit. Alors comment tout n'est pas interdit? Alors bon, à cette époque, il n'y avait pas de cinéma, il y avait le théâtre. Alors elle a dit, Monsieur Toré, est-ce que vous allez au théâtre? Il a dit, mais quand je veux. Ah bon? Vous pouvez aller au théâtre quand je veux. Alors elle lui a dit, mais vous y allez au théâtre? Jamais. Alors elle a dit, mais vous voyez que c'est interdit. Non, ce n'est pas interdit, mais je n'ai jamais envie d'y aller. C'est tout. C'est pas que on a une vie d'abstinence et de, on est sobre. Il y a des choses, on n'a pas envie d'y aller. Pourquoi? Parce qu'on a meilleur. On a Jésus-Christ. On a la gloire de Dieu. On a une vie sainte. Et je peux vous dire qu'une vie sainte est quelque chose de si merveilleux, de si attractif, que les choses, les passions de ce monde, aller faire ceci, aller faire ça, et tout ce que ce monde a, mais on n'a pas envie. On n'y goûte pas. Ça ne nous plaît pas. Vous savez que la communion avec Dieu est un bien si précieux, c'est un trésor si inestimable que l'on n'a pas envie de perdre cette communion avec Dieu. C'est entendre des blasphèmes, voir des choses impures, mais on n'a pas envie. Pourquoi? Parce qu'on aime Dieu, parce que cette sainteté de Jésus-Christ en nous appelle une vie sainte, une vie propre, une vie droite, une vie qui aime Dieu, une vie qui aime la parole. Il y a une joie dans la parole. Vous lisez la parole, mais vous ne vous arrêtez pas de la lire. Il y a des choses. Bon, vous dites maintenant, c'est l'heure, hein, il faut que j'y aille. Je vais peut-être. Non, il faut que j'y aille parce que je dois m'arrêter. Je ne peux pas faire que la lire. Il y a aussi des choses à faire. Donc, c'est avec un petit peu de regret qu'on la ferme. Ou prier. On est en train de prier, de demander. Mais on se dit, bon, maintenant, c'est fini. Et vous savez, ce monde croit que ses passions et sa débauche est vraiment le paradis sur la terre. Non, c'est l'enfer sur la terre. Parce que après, il y a cette culpabilité qui pèse. Il y a ce poids. Pourquoi il y a tant de psychiatres? Pourquoi il y a tant de gens qui font des dépressions? Pourquoi il y a tant de gens qui se suicident? Parce que c'est le paradis sur la terre? Parce que la débauche, c'est le paradis? Mais je peux vous dire, c'est un enfer. Pourquoi tant de gens prennent-ils des tranquillisants, des antidépresseurs et des machins et des trucs? Pourquoi? Mais c'est le poids d'une culpabilité, d'une vie de débauche, d'une vie sans sobriété, d'une vie où on a tout laissé, ouvert la porte à tout, ou à presque tout. Et puis, on ajoute une chose à une autre et on vous dit, oh là là, si, vous n'avez pas goûté ça. Vous savez pas quel plaisir ça va vous faire. Mais Satan a fait la même chose à Adam et Ève au jardin d'Éden avec le fruit défendu. Ils ont goûté le fruit et ils en ont eu les conséquences après. Mais ils n'avaient rien goûté, ils ne savaient pas ce que c'était de perdre la communion avec Dieu avant de manger le fruit. C'est après qu'ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient perdu. Et je peux vous dire, quand Adam, un jour, a trouvé son fils Abel mort. Il a compris ce que c'était, parce qu'il a bien fallu que cet Abel il soit enterré. Et je peux imaginer, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, que quand Adam a trouvé Abel mort, mais bien sûr qu'il a trouvé, parce qu'il a emmené son fils mort, il a enterré, premier homme mort. Et ce jour-là, il a dû maudire d'avoir écouté l'ennemi et d'avoir dit que le fruit était bon à manger, agréable à la vue, qu'il ouvrait l'intelligence. Il a dit, mais qu'est-ce que j'étais idiot de croire une pareille chose, parce que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. C'est cette séduction du péché, et cette parole de Toré est tellement sage. Quand je veux, mais j'ai jamais envie. Je veux pas perdre ces choses si précieuses. J'ai mon héritage en Christ. J'ai des biens précieux. J'ai des choses éternelles en vue. Un jour, je vais rentrer dans la présence de Dieu. Je vais rentrer dans la présence de Dieu avec joie et me dire, Seigneur, voilà. Et entendre le Seigneur Jésus me dire, c'est bien bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Et ça, je peux vous dire, il n'y a pas de plus grande récompense. C'est le regard de Christ sur notre vie, sur nous, de dire, c'était un bon combat. Tu as combattu le bon combat. Tu as achevé la course. La couronne est pour toi. Et vous savez, qu'est-ce que c'est que ces petites choses de ce monde qui nous captivent et qui sont notre honte?
tandis que nous avons tellement de biens précieux qui sont notre gloire.
Le Seigneur vous bénisse.